Le rendez-vous de l'actu.
L'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, l'APA, est née il y a 60 ans, au lendemain des accidents de Londres, provoquant ainsi la volonté collective de mettre la pollution sur l'agenda politique. Pour bien comprendre le présent et donc l'avenir de cette politique publique de protection de l'air qui se cherche encore, petit plongeon dans le passé pour une mise en perspective historique avec Isabelle Roussel, présidente d'honneur de l'APA, professeure émérite à l'Université de Lille 1, à l'occasion de la journée d'actualité du 27 septembre 2018, organisée par l'INSET Montpellier et la délégation Rhône-Alpes Lyon sur le rôle des collectivités locales dans la réduction des pollutions atmosphériques.
Je vais vous entraîner déjà sur la journée de la qualité de l'air de 1969, pour vous montrer que 50 ans auparavant, on avait déjà le souci de la qualité de l'air. On avait fait une grande manifestation dans toute la France. Cette semaine était mise sous le haut patronage du ministre, qui était le ministre de la Santé à l'époque, hein, qui avait en charge la qualité de l'air. Et à Lyon, cette journée avait fait grand bruit. Le Progrès s'en était fait l'écho. Et vous aviez eu de nombreuses manifestations. On avait enregistré des conférences à Villeurbanne, à Givors et dans toute l'agglomération lyonnaise. L'association des automobilistes, donc l'Automobile Club, avait diffusé 50 000 tracts pour inciter les conducteurs à conduire prudemment, pour inciter les conducteurs à choisir le diesel plutôt que l'essence, qui était moins polluant, et pour éviter les bouchons dans le trafic. Les responsables politiques s'étaient aussi investis dans cette journée et ils avaient justement encouragé un certain nombre de ce qu'on appellerait maintenant des bonnes pratiques, hein, en particulier l'isolation des maisons, la réduction de la circulation automobile, etc., etc. Une manifestation tout à fait éloquente. Et puis, on voit aussi fleurir à cette époque, donc au lendemain des accidents de Londres, dans les années 70, un certain nombre de déclarations. Alors là, je vous ai donné des déclarations de Louis Armand, qui était un haut fonctionnaire de l'époque, qui avait eu beaucoup d'influence et qui était le premier président du CITEPA, enfin un organisme que vous connaissez sans doute. Là, je vous ai mis juste deux extraits qui sont intéressants. C'est que, tout d'abord une orientation vers la technique et surtout l'industrie. Elle est capable de réparer ce qu'elle a détérioré, donc une foi vraiment forte dans la technique. Et puis les normes. C'est le début de la mise en route d'un certain nombre de normes qui témoignent d'un souci de limiter les émissions, qui est encore d'actualité, on vient de vous le dire. Dans ce même ordre d'idées, le Conseil de l'Europe en 70 donnait déjà des recommandations qui sont encore d'actualité. Il est souhaitable de limiter la concentration des sources d'émissions, qu'il s'agisse du chauffage des locaux et de la circulation automobile dans les villes ou d'établissements industriels implantés dans certaines zones. Il est essentiel de réserver ou de créer des espaces verts et des rideaux de protection entre les zones résidentielles et les zones industrielles. Il faut aussi mieux calibrer la hauteur des cheminées et améliorer l'isolation des logements. Je pourrais continuer sur ce rythme. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer encore une allocution qui a fait grand bruit de Georges Pompidou à Chicago. Il dit: l'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les éléments de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie, comme l'air et l'eau, qui commencent à faire défaut. Ce qui est intéressant à signaler, c'est que ce même Georges Pompidou, avec la déclaration que je viens de vous lire, c'est lui qui a fait les voies sur berge, etc. Donc vous voyez qu'il y a des dissonances cognitives qui sont fortes, et ça va être une partie de mon propos. effectivement 40 ans. 50 ans, voire 60. Je vous ai mis là le Guardian, une du Guardian pour vous montrer que actuellement, c'est encore considéré comme étant le risque environnemental le plus fort. Et c'était les réactions qui ont été nombreuses au lendemain du rapport de la Cour des comptes européenne que vous avez sans doute eu entre les mains. Alors, comment expliquer cette espèce de dissonance entre les bonnes intentions déjà énoncées en 70 et puis le fait que maintenant on en soit encore à peu près au même point? Alors tout d'abord, il faut dire que la pollution, essentiellement la pollution industrielle, a beaucoup diminué, qu'effectivement Louis Armand a eu droit à des normes, aux normes qu'il réclamait, et que les industriels se sont conformés aux normes. Mais les normes ont aussi marqué un inconvénient parce que on est passé de la plainte, de la subjectivité de la pollution à la normalisation, à l'objectivisation de la mesure, à travers les mesures. Donc ce qui était considéré comme un mal-être, comme un inconfort, une gêne, eh bien, est devenu normé, et ça a été un peu la disparition des plaintes. Autant il y avait toute une, dans les archives, on retrouve de nombreuses plaintes, après, avec la généralisation de la mesure, eh bien, ces plaintes ont été normées. Elles ont très souvent été classées sans suite parce que les mesures que l'on faisait étaient conformes aux normes. Donc, cette normalisation a eu pour conséquence une technicisation de la pollution de l'air et peut-être un éloignement de la population des mesures et du côté très technique de ce qu'était devenu la pollution de l'air. Les mesures et les normes, juste un petit mot pour rebondir sur la conclusion qui vous a été donnée précédemment. Vous avez eu deux types de normes, les normes de concentration qui ont été utilisées justement pour améliorer la qualité de l'air et faire les études épidémiologiques avec l'exposition des populations. Et puis les normes d'émission sur lesquelles on revient maintenant, c'est ce que j'appelle moi une espèce de retour aux sources, en s'appuyant sur ce qu'était la conclusion qui vous a été proposée, toute la maîtrise des émissions a toujours un risque sanitaire, même s'il n'a pas été mesuré et objectivé. Donc maintenant, on est tout à fait partant pour diminuer les émissions, quelles qu'elles soient. Je vous ai parlé des normes. Je pense que le ministère de l'Environnement, en lâchant la prédominance de la santé, puisque la création du ministère de l'Environnement a fait que la qualité de l'air a été entre les mains du corps des mines, et donc sur un aspect industriel très technique, et la santé a été un peu dépossédée de la qualité de l'air. Le ministère de l'Environnement a été essentiellement fondé grâce à des environnementalistes et toutes les associations de protection de la nature. Alors que la pollution de l'air, elle, a été reprise par le corps des mines parce que c'était considéré comme un élément industriel essentiellement. Et donc, on a un peu perdu une notion de risque sanitaire à ce moment-là. Mais pourquoi on l'a perdu? Parce que le ministère de la Santé et les médecins étaient à fond dans le curatif. On était en plein dans l'État-providence, dans le curatif, et la santé environnementale était méprisée. Autant on avait eu des notions de santé environnementale avec l'hygiénisme et puis au XVIIIe siècle, et là, à partir de la fin du XXe siècle, cet aspect affectif, sensible de la pollution était méprisé, et puis on regardait plutôt le curatif. Donc ça, ce sont des hypothèses. Bon, et puis bien sûr la disjonction entre l'économique et puis l'environnement, ce qui a été une grande... On a continué à produire sans se soucier des externalités, ce qui a quand même été une erreur fondamentale. Mais il n'y a pas que des... Pierre Wolf disait que j'étais pessimiste, mais non, il y a aussi eu des choses intéressantes qui se sont produites pendant cette période. Il y a eu ce que j'appelle le boom des particules, c'est-à-dire qu'on a complètement changé de perspective vis-à-vis du risque sanitaire, puisque les particules vont d'un organe à l'autre, elles arrivent à percer la barrière des organes, et donc on retrouve les conséquences qui vous ont été soulignées. Il y a le changement climatique qui est arrivé aussi sur le devant de la scène, et avec une coïncidence entre le changement climatique qui au début était considéré comme quelque chose de très vague, avec les grands modèles de circulation atmosphérique. Mais maintenant on se rend compte que pour s'adapter au changement climatique, il faut avoir aussi une vision locale, et à l'inverse, la pollution de l'air qui était très locale, liée aux émissions industrielles, on s'est rendu compte qu'elle était également très globale. Et maintenant, le meilleur exemple, c'est la Chine. La Chine, pour essayer de limiter le changement climatique et pour maîtriser le climat, agit beaucoup sur le levier sanitaire. On revient à la santé environnementale, à travers la qualité de l'air intérieur. On sait maintenant que dans toutes les maisons, donc il y a une responsabilité individuelle, une façon de promouvoir sa santé par le confort des maisons. On a des doutes maintenant sur le progrès technique. Jamais la phrase de Louis Armand ne pourrait faire la une d'un journal actuellement. On sait très bien que la croyance dans le progrès ne donne pas forcément le bonheur. On revient à l'importance des sciences sociales. Je pense que toutes les expériences positives qui nous seront présentées tout à l'heure s'appuient sur l'implication des citoyens, l'implication des citadins, et tout cela, eh bien, ça se résonne. Il y a de l'ingénierie sociale qui vient à l'aide de tout ce qui est fait, et puis le retour aux sources, je vous en ai parlé. Donc on arrive maintenant, moi, ce que j'appelle un kéros. On voit qu'il y a une volonté politique, la qualité de l'air, on en parle. On sait que c'est un élément essentiel des villes, du discours politique. Donc voilà, il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir, mais il y a quand même s'il y a des conditions favorables, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Il ne suffit pas d'avoir une volonté politique. La qualité de l'air, c'est complexe. Les connaissances sont nécessaires, mais elles n'apportent pas les solutions. Les solutions ne sont jamais données par tous les outils qui sont à votre disposition. Il y a une nécessité de gouvernance, puisqu'il y a forcément des contradictions dans la maîtrise de la qualité de l'air. Et puis, il y a une importance du long terme, ce qui veut dire que quand vous mettez une action en œuvre, eh bien, ces résultats ne seront pas immédiats, d'où la tentation un petit peu dangereuse de faire beaucoup de communication sur des actions qui n'ont pas encore porté leurs fruits, et on revient dans la dissonance qu'on a pu dénoncer pour Georges Pompidou. Donc il faut faire attention, et la communication est un exercice très difficile. Dans les conditions favorables, on voit que les villes se sont saisies de la pollution et qu'elles ont des outils, des leviers. Autant dans l'État français, le poids de l'État, et l'État a une compétence sur la qualité de l'air en fonction de la sécurité sanitaire, mais les villes, elles ont tous les leviers pour la prévention. Donc là, c'est quelque chose dont on commence à se rendre compte. On s'en est rendu compte aussi pour le climat. On voit maintenant que les parties prenantes non étatiques jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre du traité de Paris, que la ville fait le lien entre les enjeux du logement et ceux du changement climatique, que la ville est capable d'avoir des politiques qui corrigent les inégalités qui ont été montrées, que c'est un lieu d'expérimentation et d'innovation, et que d'ailleurs l'innovation a remplacé le progrès, et que maintenant on sait qu'en intégrant climat, qualité de l'air et énergie, on laisse un champ extraordinairement libre à l'innovation, que ces expérimentations, les villes peuvent s'en saisir, et qu'elles peuvent aussi créer des emplois qui sont locaux. Donc il y a, vous voyez, toute une spirale vertueuse à mettre en œuvre, mais pour ça, voilà, il faut se donner les moyens qui seront d'autant mieux acceptés qu'il y a maintenant une pression des citoyens. Autant au moment de la journée de l'air en octobre 69, bon, il y avait, on pensait justement globalement que le progrès allait bien faire les choses. Maintenant, non, les citadins ne se laissent plus avoir, si je peux dire. Et donc voilà tout un ensemble de circonstances favorables. Et je pense que toutes les expériences que vous allez nous montrer vont dans le sens de cet optimisme en dépit de ce que vous avez pu m'attribuer.
Le rendez-vous de l'actu.